Le psaume 104, au verset 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de splendeur et de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Il étend les cieux comme une tenture. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre dans la continuité de toutes nos études précédentes dans lesquelles nous avons étudié et approfondit le sujet et le thème de se revêtir de la justice de Christ, qui n'est autre que la justice de Dieu. Et aujourd'hui, à la suite de ce que l'on avait vu précédemment, j'aimerais attirer votre attention vers un sujet qui a une importance toute particulière en ces jours-ci du temps de la fin. Je veux attirer votre attention vers une réalité qui s'est développée dans notre monde, tout particulièrement avec l'avènement du 20e siècle et le 21e siècle n'étant que un développement beaucoup plus approfondi de cette réalité vers laquelle je veux attirer votre attention. Et le fait est, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a certaines notions qui se sont établies et qui se sont enracinées, tout particulièrement dans le monde chrétien. Et ces notions, ce sont des notions qui contredisent complètement les purs enseignements de la parole de Dieu et qui anéantissent la puissance de l'évangile dans la vie pratique des croyants. Ces notions auxquelles nous faisons aujourd'hui face et qui sont profondément enracinées dans notre société d'aujourd'hui, elle pousse les hommes à anéantir la puissance de l'évangile dans leur vie pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, l'évangile est toujours maintenu et élevé, mais dans la vie pratique, à cause de ces notions-là que nous voulons aborder, la puissance de l'évangile est véritablement anéantie. C'est-à-dire que la théorie est présentée, mais la puissance de l'évangile est anéantie à cause de ces notions-là. Et sans plus tarder, je veux attirer notre attention en priant que le Saint-Esprit descende sur nous pour nous éclairer à travers sa parole et nous faire comprendre les tenants et aboutissants de ces notions et du sens clair et juste de la parole de Dieu sur lequel ces notions sont fondées. Tournons-nous vers Genèse chapitre 1 et verset 27. Et vous vous souviendrez, si vous avez suivi nos études précédentes, que ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est directement en lien avec ce que nous avions étudié très attentivement sur le sujet de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et de ne point flatter la chair dans ses convoitises. C'est directement lié. Vous allez voir, le lien est très intime. Et il est si intime que si ce lien n'est pas établi dans nos esprits intelligents, la puissance de l'évangile sera anéantie à travers ces notions dans notre vie pratique en tant que croyant au Seigneur Jésus-Christ. Allons-y maintenant dans Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27, pour commencer. Après, Genèse chapitre 2, verset 15 et verset 25. Nous allons suivre comment la Bible nous trace une suite logique d'événements et de messages qui sont compris à travers cette suite logique d'événements. Lisons ici Genèse 1, 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme à son image. Ensuite, il les a placés dans le jardin d'Éden. Verset 25 de chapitre 2. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et là, à la lumière de ces déclarations de la parole de Dieu, je vous pose la question, comment lisez-vous? Comment est-ce que je lis la parole de Dieu? Comment est-ce que je lis? Quel est le sens que vous en retenez? Maintenant, je vais vous dire le sens que de nombreuses personnes en retiennent. Je vais mentionner pour que l'on puisse comprendre la raison de cette étude et l'importance capitale pour nous de comprendre le sens clair et net et précis de ce que Dieu, le sens que Dieu a renfermé dans ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réalité qui est contenue dans ces paroles? Qu'est-ce que ça représente en vrai? En vrai, pas selon les notions. Comment lisez-vous? Donc nous avons besoin de permettre à Dieu de nous donner la juste interprétation de ces paroles. Et l'interprétation qui en est faite aujourd'hui, en notre temps, c'est que Adam et sa femme étaient nus, comme c'est écrit d'ailleurs. C'est écrit, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et le sens, c'est qu'ils se baladaient tout nus en Éden sans aucun vêtement pour couvrir leur nudité et qu'ils n'en avaient point honte quand bien même ils se baladaient tout nus. C'est le sens qui est pris de ces paroles. C'est le sens que la majorité des chrétiens dans notre monde aujourd'hui retirent de ces paroles que nous venons de lire. Mais notez bien, frères et sœurs, mais nous avons commencé par le passage de Genèse chapitre 1, verset 27, pour une raison bien précise, parce que nous allons relire ce passage et je veux que vous faisiez très attention à ce qui est écrit ici. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça l'importance de lire la parole de Dieu. Pas de se souvenir, pas de pouvoir répéter, pas de pouvoir mémoriser, mais de savoir ce que cela veut dire personnellement, réellement, concrètement, pour que cela ait un impact véritable dans nos vies pratiques. C'est ça l'importance. Et donc là, vous vous souviendrez, nous avons lu que Dieu a créé l'homme à son image. Il les a créés, mâle et femelle, Adam et Ève, et il les a placés en Éden. Et ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous lisons Genèse chapitre 1, versets 26, 27 et 31. Après que Dieu ait créé toutes ces choses de la terre, l'eau, la mer, les êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux, et qu'il ait fait ces animaux, qu'il les ait créés selon son espèce, tous les reptiles du sol. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, etc. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Verset 31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc c'est très très important qu'on note exactement ce qui est déclaré ici par l'Esprit de Dieu dans les paroles de l'inspiration. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, et ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme à son image, donc il a fait ce qu'il avait dit, et ensuite au verset 31, il a regardé tout ce qu'il avait fait, juste pour vérifier, pour nous faire comprendre qu'il avait fait aucune erreur. Et il a dit, il a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc la parole de Dieu nous donne une indication qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de erratum, mais que tout ce qu'il avait fait était correct, était très bon, parfait. Tout ce qu'il avait fait était parfait, ce n'était pas souillé par le péché, il n'y avait aucune erreur, c'était la création parfaite de Dieu. Et ensuite, toujours dans cette création parfaite de Dieu, qu'est-ce que nous lisons? Or Adam, chapitre 2, verset 25, « Or Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Nous sommes encore dans le contexte de la création au sujet de laquelle Dieu avait dit « Et voici, c'était très bon. » Tout cela était très bon. Adam et Ève étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte, et tout cela a été très bon. Quel est le sens? Comment lisez-vous? Comment lisez-vous? Parce qu'aujourd'hui, des personnes vont lire cela, et vont se dire, il n'y a pas de problème, je peux être nu, et ne pas en avoir honte, et tout cela est très bon. Est-ce que une telle mentalité est approuvée par la parole de Dieu? C'est important que on qualifie très très attentivement ce qui est écrit. Qu'est-ce qui était très bon? D'ailleurs, nous posons une autre question. Quelle est son image et sa ressemblance? Parce qu'il a dit au chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Et ensuite, il a fait ce qu'il a dit, et il a dit que c'était très bon, et Adam et Ève étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et il avait créé Adam et Ève à son image, selon sa ressemblance. Comment lisez-vous? Comment lisons-nous? Quel est le sens de la parole? Quelle est l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu? Allons-y dans le psaume 104, notre lecture biblique. Le psaume 104, versets 1 et 2. Quelle est son image et sa ressemblance? Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de splendeur et de majesté, il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement, il étend les cieux comme une tenture. Qu'est-ce que nous relevons ici dans ces paroles? Quel est le sens? Tu es revêtu de splendeur et de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Quelle est son image? Quelle est sa ressemblance? Tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de splendeur et de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Et pour montrer que nous ne faisons aucune supposition humaine, nous voulons nous tourner vers une déclaration de l'esprit de prophétie. Dans Patriarches et prophètes, à la page 23, au paragraphe 1, où l'esprit de prophétie va tirer la conclusion pour nous, de sorte que nous n'ayons aucune conclusion à tirer et nous n'ayons à formuler aucune affirmation de nous-mêmes. Je lis. En sortant des mains de son Créateur, l'homme était d'une taille élancée et parfaitement harmonieuse. Son visage vermeil resplendissait de santé, de vie et de joie. La stature d'Adam était de beaucoup supérieure à celle des hommes de la génération présente. Ève lui était quelque peu inférieure en stature, mais ses formes étaient pleines de noblesse et de grâce. Donc là, on est dans le contexte de la création parfaite de l'homme. Vous vous souviendrez ce qu'on vient de lire. Comme vous l'avez vu, Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon tel qu'il est décrit. La stature d'Adam était de beaucoup supérieure à celle des hommes d'aujourd'hui et son visage vermeil resplendissait de santé, de vie et de joie. En sortant des mains de son Créateur, Adam était d'une taille élancée et parfaitement harmonieuse. Tout était très bon. Qu'est-ce qui est écrit au sujet de leur condition physique maintenant, de leur nudité? Je lis. Dans son innocence, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel. Notez bien les paroles, chaque mot est important. Je relis. Dans son innocence, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel. Ils étaient revêtus comme les anges d'un voile de lumière et de gloire. Et aussi longtemps qu'ils restèrent obéissants à Dieu, cette robe de lumière continua de les envelopper. De qu'est-ce que c'est? De quoi étaient-ils revêtus? Je suis en train de lire l'inspiration ici. Ce n'est pas mes idées. Ce n'est pas des suggestions humaines. C'est l'esprit de prophétie. Et crains Dieu, car l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel. Il n'y a pas écrit « il ne portait aucun vêtement ». Il y a écrit « il ne portait aucun vêtement artificiel ». Quel était leur vêtement? Comme Dieu dans Psaume 104, ce que nous venons de lire. Ils étaient revêtus comme les anges d'un voile de lumière et de gloire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Exactement comme le Seigneur. Je relis, il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Comme d'un vêtement. Ils étaient tout de nus, ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de lumière comme d'un vêtement. La lumière revêtait leur nudité de telle sorte qu'ils n'en avaient point honte parce qu'il n'y avait pas de nudité à voir, parce qu'ils étaient revêtus comme les anges d'un voile de lumière et de gloire. Est-ce que vous voyez maintenant comment Jésus illumine sa propre parole? comme nous lisons dans Jean chapitre 1, au début était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et comme c'est écrit, et aussi longtemps qu'ils restèrent obéissants à Dieu, cette robe de lumière continua de les envelopper. Donc tant qu'ils restèrent obéissants à Dieu, ils continuèrent d'être revêtus de cette robe de lumière comme de par un vêtement. De telle sorte que l'inspiration peut déclarer ils étaient tout de nus, mais ils n'en avaient point honte. Voilà comment Dieu nous apprend à lire. Et donc, je récapitule, pourquoi n'avaient-ils pas honte? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas honte? Parce que leur nudité était couverte d'un voile de lumière et de gloire, comme les anges et comme Dieu lui-même. Voilà pourquoi ils n'avaient point honte. Mais comme la déclaration de la fin de cette citation vient de nous le suggérer, quand ils cessèrent leur obéissance à Dieu, ils ont fait une différente expérience. Je le lis brièvement dans Message choisi, volume 1, à la page 316, au paragraphe 2, où il est écrit « L'auréole de gloire que Dieu avait accordée au Saint Adam et qui le recouvrait comme un vêtement s'éloigna de lui après sa transgression. » La lumière de la gloire divine ne pouvait couvrir la désobéissance et le péché. Au lieu de la santé et de bénédictions abondantes, la pauvreté, la maladie, des souffrances de toute espèce allaient être le partage des enfants d'Adam. Et donc, c'est ce que nous voyons dans Genèse, nous y retournons, Genèse chapitre 3, au verset 7. Vous connaissez très bien le récit, mais il reste certaines choses à clarifier pour nous, pour que on ne passe pas à côté d'une signification et d'un message très important que le Seigneur veut et désire nous communiquer maintenant. Genèse 3, verset 7. Et donc, après que Adam et Ève aient mangé du fruit interdit, il est écrit « Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment lisez-vous? Comment lisons-nous? Eh bien, à la lumière de ce que nous venons de lire, je lis mot pour mot. Vous verrez que je n'ajoute aucune de mes paroles, c'est exactement ce qui est écrit. L'auréole de gloire que Dieu avait accordée au Saint Adam et qui le recouvrait comme un vêtement s'éloigna de lui après sa transgression. Donc, quand il y a marqué « ils connurent qu'ils étaient nus », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est simplement qu'ils ont eu quelque chose qui s'est passé dans leurs yeux pour voir qu'ils étaient nus, alors qu'avant ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus? Est-ce que c'est ça le sens? Vous me direz « mais ça ne fait pas de sens ça ». Je suis d'accord, mais c'est exactement ce qui est enseigné aujourd'hui dans la majorité du monde chrétien. C'est pour cette raison que nous avons besoin de sonder très attentivement le sens, parce que il ne s'agit pas simplement d'une vérité sans impact sur notre vie personnelle. Parce que comme je l'ai dit, au tout départ, il existe aujourd'hui cette notion qui est d'une telle envergure qu'elle agit subtilement sur la vie pratique des croyants à travers cette notion qu'ils ont du sens de la parole de Dieu. Parce que la notion, c'est que nous lisons et nous pensons que ils étaient nus, tout nus, avant d'avoir péché, et après avoir péché, ils étaient aussi nus. Simplement, la seule différence, c'est que là, ils ont commencé à comprendre qu'ils étaient nus. Est-ce que c'est ça le sens? Ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur était en train d'essayer de communiquer ici. D'ailleurs, vous vous rappellerez, nous venons de faire la suite logique à travers le psaume 104 et la déclaration de l'esprit de prophétie, où toutes ces choses se raccordent les unes aux autres, et nous voyons que ils étaient revêtus d'un voile de lumière et de gloire. Et c'est pour cette raison que quand ils péchèrent et que ce voile, ce vêtement, cette auréole de gloire s'éloigna d'eux, ils s'empressèrent de se coudre des feuilles de figuier. Et même si nous n'avions pas l'esprit de prophétie, ça serait très simple d'arriver à la simple conclusion que, de toute évidence, ils avaient l'habitude d'être vêtus. Autrement, ils ne se seraient pas empressés à se coudre quelque chose pour le mettre par-dessus eux. Mais nous rendons grâce au Seigneur que nous ne sommes pas laissés sans illumination spéciale du témoignage de Jésus. Donc nous n'avons même pas besoin de faire comme si il n'y a pas de temps pour agir de cette manière. Nous avons l'esprit de prophétie et donc nous agissons comme ayant été bénis par les indications et les révélations du témoignage de Jésus. Et donc, ayant déjà l'habitude d'être revêtus, c'est pour cette raison qu'ils se sont empressés de remplacer leur robe de lumière perdue. Et comme nous le savons, après que ils soient déchus de leur obéissance à Dieu, leur relation avec Dieu a été atteinte. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, je lis. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu ? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez, il y a un message très profond dans la parole où la réalité de nudité est associée à un avilissement de l'homme. De telle sorte que lorsqu'ils ont vu leur nudité, la présence de Dieu, lorsqu'ils avaient péché et que ensuite cela leur a ôté leur robe de lumière qui avant cela couvrait leur nudité, cela a introduit dans leurs âmes une crainte en la présence de Dieu. Et donc c'est pour cela que ce message d'aujourd'hui et Dieu voulant des prochains sabbats où nous allons continuer de méditer est directement lié à la relation que nous entretenons avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Père, et avec le Saint-Esprit. Parce que ici, nous voyons que, ayant péché et ayant été maintenant déchus de leur position d'harmonie avec Dieu, ils se retrouvaient nus, ils se retrouvaient à se revêtir de leurs propres habits de rapiessage, comme nous l'avions étudié précédemment, où ils essayaient par leurs propres œuvres de justice de se rendre acceptables devant Dieu. Mais au final, même après s'être cousu des feuilles de figuier et s'être fait des ceintures, comme c'est écrit, quand le Seigneur est venu se promener dans le jardin comme il avait l'habitude de le faire pour communier avec eux, malgré cela, ils se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel, il ne s'offusque pas. Il ne les trouble pas plus davantage qu'ils ne le sont déjà. Et donc, il appelle Adam et lui dit, « Où es-tu ? Où es-tu ? Mon fils ! Mon fils !» Nous lisons que Adam était fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Et le voilà maintenant déchu. Le voilà maintenant revêtu de feuilles de figuier qui ne couvre pas bien sa nudité. Et donc, qui l'amène à, malgré tout, fuir devant la face de l'Éternel. Et donc, l'Éternel dit, « Où es-tu, Adam ? Que fais-tu ? » Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il ressent, il sait ce qu'il a fait. Mais il veut quand même rétablir une relation qui a été brisée par le péché. Verset 10, Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez, frères et sœurs, le message que nous introduisons aujourd'hui, il est d'une importance capitale parce qu'il ne s'agit pas simplement de ce que nous faisons à l'extérieur, mais comme nous le lirons dans le proche futur, Dieu voulant, ce que nous faisons à l'extérieur est un signe, une manifestation de ce qui a été produit à l'intérieur. Et quand il est venu à Adam pour rétablir cette communion, il n'a pas simplement parlé. Il n'a pas simplement essayé de rendre ses robes de figuier acceptables à ses propres yeux. Non. Il a déclaré la promesse de la venue de Jésus-Christ, comme nous lisons au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Il parlait ici à Satan, il disait, je mettrai inimitié entre toi, Satan, le serpent, et la femme, entre ta postérité, la postérité du serpent, et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci, cette postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Talons. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration, parle de cette postérité et dit que cette postérité de la femme, ce n'est autre que Jésus-Christ. Et donc ici, Dieu faisait une annonce du plan de la rédemption par lequel Adam et Ève pouvaient être acceptés et ramenés dans la communion avec lui. Mais notez bien que il n'a pas simplement déclaré le plan du salut, mais il a manifesté et illustré de manière pratique une conséquence toute particulière du plan du salut. Nous lisons le verset 21, Genèse 3, verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Donc il n'a pas juste dit, voilà, je donne Jésus-Christ, tu vas croire en lui, tu vas mettre ta foi au sacrifice et tout ira bien. Non, ce n'est pas uniquement ça. Il a montré à Adam et Ève que l'œuvre de rédemption dans laquelle il les appelait était une œuvre qui susciterait et qui demanderait de leur part une implication et un engagement total de tout leur être, de telle sorte que même leurs vêtements étaient compris dans le plan du salut. Sinon, nous ne lirions pas cela. Mais Dieu a inclus précisément ce passage pour montrer que les feuilles de figuier et ses ceintures n'étaient pas acceptables du tout à ses yeux et ne pouvaient pas avoir de place dans le plan de la rédemption de l'homme. Et pour conclure aujourd'hui, nous voulons lire une déclaration de l'esprit de prophétie où nous trouvons dans le livre « Levez vos yeux en haut » à la page 370 et au paragraphe 2 et 3. Et vous voyez la signification symbolique ici de ces robes de peau dont Dieu a revêtu Adam et Ève. Je lis. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé un vêtement, la robe de sa justice, dont il enveloppera toute âme croyante et repentante qui la recevra par la foi. Jean a écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est la transgression de la loi. Christ est mort pour donner à chaque homme la possibilité d'être délivré de ses péchés. Un vêtement de feuilles de figuier ne cachera jamais notre nudité. Le péché doit être ôté et le vêtement de la justice de Christ doit recouvrir le transgresseur de la loi de Dieu. Alors, en regardant le pécheur croyant, le Seigneur ne voit pas les feuilles de figuier qui le recouvrent, mais la robe de la justice de Christ qui est l'obéissance parfaite à la loi de Jéhovah. L'homme a caché sa nudité, non pas sous les feuilles du figuier, mais sous la robe de la justice de Christ. Donc, qu'est-ce qui nous est déclaré ici, sous l'esprit de prophétie? Un vêtement de feuilles de figuier ne cachera jamais notre nudité. Et c'est pour cette raison qu'il les a revêtus de ces robes de peau. Parce que ces robes de peau n'étaient autres que ce vêtement que Jésus a préparé, la robe de sa justice, dont il enveloppera toute âme croyante et repentante qui la recevra par la foi. Donc vous voyez, quand Dieu a revêtu Adam et sa femme de ses robes de peau, il était en train d'illustrer de manière réelle. Il s'agit ici de robes réelles, concrètes, tangibles, de peau, qui symbolisaient le fait que Christ est mort pour donner à chaque homme la possibilité d'être délivré de ses péchés. Et vous vous souviendrez, dans nos études précédentes, on a vu que lorsque nous venons à Dieu et que nous exerçons la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, il nous reçoit tel que nous sommes. Tel que nous sommes, c'est-à-dire que il nous revêt, nous dont les justices ne sont que des, ne sont qu'un vêtement souillé, il nous revêt de sa robe de justice, comme nous le lisons dans Ésaïe chapitre 61 verset 10, nous l'avions lu, il nous revêt de cette robe parfaite de justice qui a été tissée sur les métiers du ciel lorsque lui, Jésus, a formé un caractère parfait sur la terre. Il nous revêt de cette robe par laquelle il nous justifie. Vous vous souviendrez, on l'a lu dans Ésaïe chapitre 6 et également dans Zacharie chapitre 3, où il y avait cette même réalité de justification où Dieu revêtait Ésaïe de sa justice. Il expiait son péché par le charbon ardent, comme on l'a vu. Et ensuite, dans Zacharie, Josué, le souverain sacrificateur qui est un représentant du peuple de Dieu en ce dernier jour, se tenait devant l'ange et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Dieu a dit à Josué, « Voici, j'enlève tes vêtements sales et je te revêts d'habits magnifiques. » Avant qu'il ait fait quoi que ce soit, il l'a revêtu d'habits magnifiques. Et c'est exactement cette même activité que Dieu a manifestée pour Adam et pour Ève. Je relis parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, frères et sœurs, que on saisisse ces choses et que on arrive par l'aide du Saint-Esprit et notre coopération intime et sincère envers le Seigneur à nous approprier cette réalité. Il y a écrit, un vêtement de feuilles de figuier ne cachera jamais notre nudité. Le péché doit être ôté et le vêtement de la justice de Christ doit recouvrir le transgresseur de la loi de Dieu. Vous voyez, il y a une activité très, très, très importante pour nous de saisir, c'est que la justification et la sanctification sont toutes les deux comprises dans cette œuvre où Dieu ôte notre péché et nous revêt du vêtement de la justice de Christ. Il recouvre par ce vêtement le transgresseur de la loi de Dieu. Et donc c'est ce qu'il a fait pour Adam et Ève, sauf que à la différence de la vision que Ésaïe a eue, qui pourrait être considérée comme symbolique, et de la vision, encore une fois, que Zacharie a eue dans Zacharie chapitre 3, là, dans Genèse chapitre 3, que nous étions en train de lire, que nous avons lu là, il n'y a pas de symbole. Il n'y a pas de symbole, c'est la réalité concrète de ce que Dieu a fait pour Adam et Ève. Il les revêtit de robes de peau. Et c'est ce sur quoi nous allons vouloir poursuivre nos méditations futures. C'est cette activité pratique pour contrer et contrecarrer ces notions présentes de notre monde actuel, et tout particulièrement de notre monde chrétien actuel, qui anéantissent la puissance de l'Évangile dans la vie pratique des croyants. Donc voilà, frères et sœurs, puissions-nous permettre et recevoir de Dieu l'onction intelligente et proche de Dieu dans nos réflexions personnelles futures à la suite de cette méditation pour que nous puissions revenir la prochaine fois avec une compréhension élargie de l'amour de Dieu lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur ajoute sa bénédiction à cette méditation et que nous puissions nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et ne point flatter la chair dans ses convoitises. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.